Comme promis, le journal Hélène Roussel. Bonjour Hélène.
Bonjour. Allumer le feu au MPSG ce soir. Un classico pas si classique dans un contexte marseillais explosif. 400 policiers mobilisés dans toute la ville. Dans l'actualité aussi, la Birmanie et cette fois des dizaines de milliers de personnes dans les rues contre le coup d'état militaire, malgré les risques d'arrestation, malgré la censure. Le Covid et la Chine qui sort son deuxième vaccin. Les crues redoutées en Charente-Maritime du côté de Cognac et de Saintes. Le Marquis de Sade, le groupe de rock, de retour et puis du Super Bowl pour un super esprit sport à la fin du journal.
Et les invités, à partir de 8h20, ils seront deux scientifiques pour évoquer l'avenir du climat, avec la chercheuse Céline Guivarch et avec le climatologue Jean-Michel Soubérou.
France Inter. Le centième classico, matière hautement inflammable comme au bon vieux temps des années 90, au MPSG ce soir, avec plusieurs mèches. D'abord, il y a eu la victoire des Marseillais à l'aller en septembre avec une série de mandales sur le terrain, accusations de racisme, crachats entre joueurs. Et puis, bien sûr, cette ambiance explosive du côté de l'OM, intrusion violente des supporters la semaine dernière qui demande toujours la tête du président, un entraîneur démissionnaire mis à pied, un stade Vélodrome que le maire veut vendre, bref, le PSG débarque dans un Marseille chaud bouillant. Alexandre Vaux.
Malgré le couvre-feu, l'ambiance s'annonce tendue ce soir aux abords du stade Vélodrome. Samy est un habitué du virage sud.
Si on perd là, ça va mettre en furie tout Marseille. Là. Tous les groupes de supporters, tout le monde, ils vont mettre des banderoles dans tout Marseille. Ils vont aller dans la commanderie, ils vont faire carnage, hein, comme la dernière fois, comme OM Rennes.
Après les événements d'il y a 8 jours, il faut dire que la semaine a été chargée. Démission de l'entraîneur André Villas-Boas mardi, match nul à Lens mercredi. Pas de quoi rassurer Bernard, qui pourtant en a vu d'autres, lui qui supporte l'Olympique de Marseille depuis 30 ans.
C'est un match très important. Si on gagne, bon, ça va un peu calmer un peu les choses, parce que je le vis mal, quoi.
On est loin aujourd'hui à Marseille de ressentir cette attente habituelle autour d'un OM-PSG, un sentiment que connaît bien Mathieu Boutros, le milieu de terrain à porter les couleurs marseillaises.
En plus pour un centième anniversaire de Classico, ce match-là, sans la ferveur, sans les supporters, c'est pas vraiment un classico. Nous, c'est ça qu'on a à Marseille. À Marseille, c'est l'OM gagne, tout gagne.
Marseille avait gagné d'ailleurs le match aller en septembre dernier, 10 ans après son dernier succès à Paris. Mais c'est bien le PSG qui domine l'historique des confrontations avec 11 victoires de plus et 2 défaites seulement face à l'OM depuis le rachat du club par le Qatar il y a près de 10 ans.
Un match à huis clos donc, mais qui sera bien gardé. Bus, des joueurs sous escorte et 400 policiers mobilisés dans toute la ville. OM, PSG, coup d'envoi ce soir, 21h.
L'actualité ce matin encore, c'est la contestation en Birmanie, cette contestation qui gagne du terrain un peu plus chaque jour.
Ce matin, ils sont des dizaines de milliers dans les rues de Rangoon et ailleurs, contre les militaires et leur coup d'état, pour la libération aussi d'Aung San Suu Kyi. Malgré les policiers anti-émeutes, malgré le risque de se faire arrêter, plus de 160 personnes interpellées hier, malgré encore la censure, la révolte plus forte que la peur. Correspondance Carole Izou.
Plusieurs milliers, non seulement dans les rues de Rangoon, mais aussi à Mandalay ou à Pegu au nord, les Birmans bravent les ordres des militaires et entonnent des chants révolutionnaires. Beaucoup sont vêtus de rouge, la couleur du parti d'Aung San Suu Kyi, la Ligue pour la démocratie. Hier soir, des rumeurs ont fait courir le bruit que la dame de Rangoon avait été libérée et le chef de l'armée Min Aung Hlaing arrêté, provoquant des célébrations massives dans les rues. Ce matin, il faut bien se rendre à l'évidence, Suu Kyi est toujours assigné à résidence à Naypyidaw sous lourde surveillance policière et les militaires toujours au pouvoir. Une illustration de plus du pouvoir énorme des fake news dans le pays. L'armée essaye de contrôler toutes les informations qui circulent. Les lignes téléphoniques et internet sont toujours coupées, mais par endroits, certains habitants ont encore un accès wifi qui leur permettent d'envoyer des informations à l'extérieur. La coupure des réseaux sociaux met en difficulté le mouvement de désobéissance civile qui appelle à la grève générale, au boycott des produits fabriqués par les conglomérats militaires et aux manifestations de rue. Bangkok, Carole Izou, France Inter.
Et commentaire de ce rapporteur spécial de l'ONU, les généraux coupent les réseaux pour laisser le monde extérieur dans l'ignorance. Le vaccin contre le Covid comme une arme géopolitique, une manière d'étendre son influence, d'asseoir sa puissance. Et dans cette course folle, la Chine accélère. Après son premier vaccin, qui n'est toujours pas autorisé en Europe au passage, voici déjà le deuxième à Pékin, Dominique André.
Sinovac Biotech, compagnie pharmaceutique chinoise, cotée en bourse aux États-Unis, devient le deuxième grand laboratoire à recevoir cette autorisation en Chine qui lui permet d'étendre la vaccination au grand public. Depuis l'été dernier, Sinovac a vacciné des centaines de milliers de personnes considérées à risque. Les centres de vaccination étaient ouverts à des professions comme les personnels soignants, les diplomates ou les employés des supermarchés. Les résultats en termes d'efficacité et de sécurité doivent être encore confirmés, indique le groupe chinois dans un communiqué. Mais le fait est, la vaccination a déjà commencé à s'étendre. Les autorités proposent depuis quelques jours ce vaccin au grand public. Des étrangers ont déjà été vaccinés à Pékin. Le vaccin a été testé au Brésil, où son taux d'efficacité globale a été d'environ 50%. La Colombie l'a approuvé cette semaine, ainsi que la Turquie. Mais l'absence d'informations scientifiques ralentit la diffusion des vaccins chinois à l'étranger face aux vaccins Pfizer-BioNTech et Moderna. Pékin, Dominique André, France Inter.
Pfizer, justement, et voici l'espoir qui nous vient d'Israël, champion de la vaccination. Le confinement, d'ailleurs, est levé progressivement à partir d'aujourd'hui dans le pays. Et les études sont vraiment positives. Sur 400 000 personnes vaccinées avec les deux doses, 250 seulement ont été contaminées, mais avec des symptômes mineurs. Et sur un groupe équivalent qui, lui, n'a pas reçu l'injection, c'est 7 000 contaminations. Les patients de plus de 60 ans hospitalisés chutent de 30%. Le vaccin qui semble efficace également contre le variant britannique. Une lueur dont on a bien besoin en France, car selon l'épidémiologiste Arnaud Fontanet, membre du conseil scientifique, tout va se jouer sur notre capacité justement à contenir ce variant en progression. Aujourd'hui, il représente 14% des contaminations. Si rien n'est fait, dit-il, ce sera 30% au mois de mars. Et puis un peu d'huile dans les rouages après les retards de livraison. 270 000 doses sont arrivées hier en France, 300 000 de plus attendues la semaine prochaine. Le vaccin AstraZeneca réservé aux soignants de moins de 65 ans. AstraZeneca qui l'avoue, son vaccin semble être moins efficace contre le variant sud-africain, mais dit-il, reste un bon rempart contre les formes graves du virus. On le sait, en attendant, ce sont souvent les plus jeunes et les plus âgés qui sont les plus isolés avec cette crise. À Paris, une association qui avait pour habitude déjà de mettre en relation étudiants et seniors le temps d'une promenade dans la capitale, a vu ses inscriptions exploser depuis mars dernier. Alexandra Lagarde nous emmène en balade.
Bras dessus, bras dessous, des masques chirurgicaux sur la bouche, Tom, 92 ans, et Malgorzata, 20 ans, font le tour du square Cheruiyot dans Paris.
Alors, vous étudiez la guerre du Vietnam ?
Oui, je dois faire un exposé pour la semaine prochaine.
Je connais bien.
Et vous connaissez quoi ?
La guerre, je l'ai faite pendant 3 ans. Et je connais le Vietnam du nord au sud.
Les souvenirs de l'ancien pilote de chasse se ravivent à l'évocation des cours d'histoire de l'étudiante.
On était sur les bases aériennes à la frontière de Chine et on était bombardés pratiquement tous les jours.
C'était en quelle année ?
Avant Dien Bien Phu, en 53. Ben vous savez l'âge que j'ai quand même. Hein. Je ne suis plus tout jeune.
Asseoir un instant sur un banc.
Oui, tous les deux bien. Se sont inscrits il y a quelques mois sur le site de Paris en compagnie. Depuis, ils se retrouvent toutes les semaines devant l'immeuble de Tom, un moyen pour lui comme pour elle, qui vit seule à Paris, loin de ses parents, de vaincre la solitude en cette pandémie.
L'engagement comme ça, c'est aussi important pour eux, mais évidemment aussi pour nous, parce que ça me permet un peu de changer de l'écran d'ordinateur de tous les jours. Ça fait aussi du lien social, parce qu'on peut sortir un peu, voir des gens, ce qui change un peu.
Comme elle, plus de 1600 jeunes ont rejoint l'association Paris en compagnie depuis le début de la crise.
Au revoir Tom, à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, avec grand plaisir, comme d'habitude.
Voilà, reportage Alexandra Lagarde. Le gouvernement critiqué dans son camp. Une quinzaine de députés macronistes ont écrit au Premier ministre hier pour réclamer un effort social en termes d'égalité des chances. C'est trop lent et c'est trop peu, disent-ils. Il faudrait, selon eux, ouvrir 40 000 crèches, simplifier les aides sociales ou encore réformer les critères pour obtenir des bourses. Là, c'est un refus catégorique de Christine Lagarde. Hors de question d'annuler la dette, ce serait, dit la présidente de la Banque Centrale Européenne dans le journal du dimanche, une violation du traité européen et de l'un de ses piliers fondamentaux, l'euro. Une fin de non-recevoir, donc, à l'appel d'une centaine d'économistes vendredi, dont Thomas Piketty. Christine Lagarde qui prévient encore, il faudra au moins un an pour retrouver les niveaux d'activité économique du monde d'avant.
En Charente-Maritime, la pluie incessante fait désormais craindre le pire.
L'eau monte, l'inquiétude avec. Le pic de la Charente est redouté dans la ville de Sainte pour demain, dans les heures qui viennent à Cognac, jusqu'à 6,30 m. Les autorités conseillent d'évacuer, parfois l'imposent. Le vice-président de la Croix-Rouge en Charente-Maritime, Mathieu Decède, raconte comment les secours s'organisent.
Depuis vendredi, il y a eu une centaine d'évacuations de personnes par les sapeurs-pompiers essentiellement. Au niveau donc de la Croix-Rouge française, nous on a ouvert ce qu'on appelle un centre d'accueil des impliqués, qui permet de recenser déjà les besoins des personnes en termes d'hébergement ou autre, de prendre contact avec leur famille. famille, si éventuellement elle n'est pas dans le secteur, de leur apporter du réconfort, distribution de boissons chaudes ou autres. Un centre d'accueil des impliqués a été ouvert au niveau de l'abbaye aux Dames à Saintes et nous avons un centre d'hébergement d'urgence au cas où la situation devenait difficile, qui est prépositionné au niveau d'un gymnase d'un lycée de la ville.
Le vice-président de la Croix-Rouge en Charente-Maritime avec Arsine Lebovitch. Une femme de 88 ans retrouvée morte dans les décombres, son compagnon toujours dans un état grave. Explosion en plein centre-ville de Bordeaux. Hier, un immeuble soufflé. Les pompiers ont retrouvé des bonbonnes de gaz sur place, mais pas de conclusion. L'enquête ne fait que commencer. Enfin, le Marquis de Sade, tel le phénix. Je vous parle là du groupe Rennais qui a révolutionné le rock français il y a de ça 40 ans. Eh bien, le voilà qui renaît de ses cendres. Un nouveau disque, un nouveau nom aussi pour le groupe qui a perdu son chanteur, Philippe Pascal, il y a un an et demi. Mathieu Culeron.
Lorsque le groupe Marquis de Sade se reforme à Rennes pour un concert il y a 3 ans, c'est à la fin du show qu'un échange entre le chanteur Philippe Pascal et le guitariste Franck Darcel va engendrer ce disque, Franck Darcel.
Au concert de formation à Rennes, qui devait être unique, et Philippe m'a dit « tu as carte blanche ». Alors je lui dis, est-ce que tu peux préciser, c'était un peu dans les brumes de l'après-concert. Il m'a dit, si tu veux continuer, on continue. Et je lui dis, mais même des nouveaux titres. Et il m'a dit, banco.
Lorsque Philippe Pascal met fin à ses jours en septembre 2019, le disque est déjà bien avancé, Marquis de Sade devient alors Marquis.
Mais voici que descend le soir.
On est resté un peu sonné pendant 3 ou 4 mois, mais les morceaux, les musiques étaient terminées. On a trouvé en Belgique un jeune chanteur, Simon Mailleux. On a quand même conservé des invités auxquels on tenait, donc Étienne Dao a eu la gentillesse de venir sur l'album. Christian Dargelos, membre fondateur de Marquis de Sade, des musiciens de télévision, c'était un peu un accident de parcours et qui fait que c'est un bel accident et sa rencontre, ça permet d'imaginer que Marquis fera d'autres albums derrière. Ouais.
Aurora n'est pas un disque de Marquis de Sade, mais on y retrouve certains éléments qui ont fait sa légende bretonne. C'est bien un disque de Marquis et le début d'un nouvel avenir pour un groupe de rock fondateur.
C'est tout chaud, ça vient de sortir. C'est donc Marquis et l'album s'appelle Aurora.
La scène rock rennaise. On a parlé de l'OM-PSG, Hélène, en début de ce journal. Il reste l'actualité sportive à venir. C'est maintenant.
Avec d'abord le super show du Super Bowl la nuit prochaine, finale du championnat de foot américain en Floride, les Buccaneers face à Kansas City. Plus de 100 millions de téléspectateurs attendus. Bonjour Laetitia Bernard.
Bonjour.
Dans Esprit Sport ce matin, vous nous racontez l'histoire de cette arbitre, une femme, pour la première fois sur la pelouse du Super Bowl. Elle s'appelle Sarah Thomas.
Et oui, la nuit prochaine, tous les regards seront braqués sur les stars comme Tom Brady. Mais elle aura probablement les larmes aux yeux en entrant, comme elle le confessait il y a quelques jours. Ah oui, le Super Bowl, c'est une incroyable reconnaissance professionnelle. Il y a 7 arbitres sur le terrain. C'est un véritable Graal et jamais aucune femme n'avait fait partie des officiels en 55 éditions.
Émue, Sarah Thomas, pourtant elle a l'habitude d'être pionnière.
On peut le dire, à 47 ans, elle a par exemple été la première femme à devenir arbitre à plein temps pour la NFL, la Ligue Nationale de Football Américain. Et c'est récent, hein, puisque ça date seulement de 2015. La première femme est la seule encore aujourd'hui, on le précise. Il y a à peine 2 ans, cette mère de famille est aussi devenue la première femme à arbitrer un match des playoffs, les phases finales sur ce prestigieux championnat. En somme, elle écrit l'histoire et elle ouvre des portes.
Et son parcours, est-ce que ça a été facile ?
Pas vraiment. Sarah Thomas, elle a hésité avant de se lancer. Inquiète notamment parce qu'un officiel lui avait dit au milieu des années 90 qu'il ne l'affecterait jamais à un match parce qu'elle était une femme, mais elle était douée. Et elle a gravi les échelons de la carrière, un à un. On lui a d'abord demandé de cacher ses cheveux sous sa casquette et de ne plus se maquiller. Alors aujourd'hui, elle continue à se maquiller quand même, mais elle explique le pourquoi de cette demande, parce qu'on voulait qu'elle soit connue, reconnue en tant qu'arbitre et pas en tant qu'arbitre féminin.
Et justement, est-ce qu'elle s'engage aujourd'hui pour inciter d'autres femmes à faire comme elle ?
Alors, pour répondre, je citerai certaines de ses déclarations diffusées dans des vidéos de la NFL. Je ne suis pas l'exemple à suivre, mais je serais ravie que mon parcours suscite d'autres vocations. Je fais ce métier d'abord parce que je l'adore. Je ne suis pas là où j'en suis seulement parce que je suis une femme dans un sport très masculin. Arbitre, joueur et entraîneur ne ne me regarde pas comme une femme, mais d'abord comme un officiel au sens d'arbitre parmi les autres.
Eh bien, merci Etsia Bernard pour ce coup de projecteur sur la première femme arbitre au Super Bowl. C'est la nuit prochaine en Floride. En bref, le rugby, coup d'envoi hier, Tony Truant pour le tournoi Destination. Le 15 de France a piétiné les Italiens 50-10. Et puis dans la soirée, l'Écosse a battu l'Angleterre 11-6. Une première depuis 1983. Cet après-midi, 16h, le poireau contre le trèfle. Le Pays de Galles reçoit l'Irlande. Enfin, lui, c'est l'homme oiseau, Armand Duplantis, recordman du saut à la perche. Il s'est envolé hier soir au meeting de Rouen à 6m03. Je ne sais pas si vous imaginez la hauteur. Meilleure performance mondiale de l'année.
Dans le journal d'Hélène Roussel, tout ça. Merci Hélène.